Oh, vous allez bien? J'ai l'air surpris parce que la semaine passée, on était 30 dans la salle, donc je suis content de vous voir. Yes. Oui. Super.
Vous êtes sauvés. C'est pas une obligation, hein?
Yes, personne d'autre veut descendre parce qu'il a dit tous les âges. Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous, à vous ici de présent dans ce lieu à Prévesaint, à l'église du CEP, à vous qui nous suivez sur Internet. On en profite encore une fois pour te saluer, Jean-Daniel, c'est bien ça? Jean-Daniel et Pascaline, ainsi que toute la famille, on vient de passer un temps de prière en votre faveur et le Burkina, donc on croit que Dieu continue à répondre et c'est un privilège, un honneur aussi de pouvoir faire partie de toutes les églises qui contribuent à une influence positive spirituelle à travers la prière. Nous sommes vraiment concernés pour vous. Bienvenue aussi, j'ai cru entendre et reconnaître la voix de Floriane hein, qui est revenue du Québec. Elle est où? Elle est là, salut! Yes! Et à vous qui nous visitez pour la première fois, soyez les bienvenus. Nous sommes dans ce qui n'était pas prévu, on avait prévu de le faire en deux fois, mais nous sommes dans la troisième et, dis à ton voisin, prie très fort, prie que Pasteur Phil puisse finir aujourd'hui. Que ce soit la troisième et dernière partie. Amen. La troisième et dernière partie de cette série intitulée « La place de la femme dans l'église du 21e siècle ». C'est 11h25, c'est trois gros morceaux, je vous le cache pas. Donc malheureusement, le message passé, il y a eu un petit couac technique, donc il n'a pas été enregistré en tout cas jusqu'à la 26e minute. Après la 26e minute, il n'y a plus rien, mais vous allez avoir l'occasion d'avoir les notes que je vais pouvoir vous envoyer si vous désirez les avoir. Ça me fait plaisir de vous les envoyer par mail. Alors évidemment, c'est des notes, il n'y a pas l'âme du message, il n'y a pas les anecdotes, il n'y a pas l'humour qui va avec, il n'y a pas les petites parenthèses d'explication, les petites capsules d'explication, mais au moins vous avez le corps du message de l'enseignement en question. Donc troisième partie et on va sprinter, on va y aller. Vous êtes prêts? En fait, c'est moi à savoir si vraiment je suis prêt. Et c'est parti! Ok, donc nous avons vu jusqu'à présent, si on peut voir la prochaine diapo, on va regarder donc les femmes dans les lettres de Paul. Prochaine diapo, on continue. Ok, 27 mots-clés, donc les mots qui sont en jaune ont déjà été touchés. Il nous reste sur les 27 mots-clés entre 6 et 8 mots, parce qu'il y en a deux qui ont déjà été touchés, mais c'est pour dire qu'on avance et on devrait pouvoir couvrir ça aujourd'hui. La prochaine importante, j'aimerais faire un petit recap sur le sujet. Donc, simplement pour rappel sur les 6 références que nous avons ou allons voir, soit en détail ou soit en les effleurant, sur les 6 références qui font allusion à la femme en termes de soumission, de rôle, etc. Parmi ces 6 références, toutes, hormis une seule, s'adressent directement à des femmes mariées. À des femmes mariées. À des femmes dans un contexte de, justement, que ce sont des épouses, ce ne sont pas des femmes célibataires. Pourquoi est-ce que je précise? Parce que je crois au rôle de l'autorité spirituelle de l'homme, mais je ne crois pas à l'autoritarisme masculin. Donc, dans la Bible, on voit nulle part cette tendance où toute femme confondue, mariée, célibataire, jeune, doit être soumise à n'importe quelle... que toutes les femmes en général devraient être soumises aux hommes en général. Chacune de ces références-là font allusion à un couple, et je crois que c'est important de le souligner. Et c'est important. Justement, aujourd'hui, on va voir 1 Timothée. Donc, on a vu jusqu'à présent Genèse 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 14, et nous allons regarder Éphésiens 5, 1 Timothée 2. Tite, on ne va pas le toucher, on va l'effleurer parce que le principe reste le même que ce qui va être partagé aujourd'hui. Donc, on avance. On parle d'autorité, simplement pour notre rappel, le terme exousia. Quand on parle d'autorité, on parle de droit, de pouvoir, liberté d'agir, de permission. Donc exousia, ce terme grec inclut toutes ces notions-là lorsqu'on parle d'autorité. Droit, pouvoir, liberté d'agir, permission. Nous avons terminé la dernière fois que nous avons parlé du sujet sur 1 Corinthiens 14. Et j'ai simplement, encore une fois, un rappel rapide. Il est important pour comprendre 1 Corinthiens 14 de savoir que 1 Corinthiens chapitre 12, 13 et 14 forment un seul et même bloc. Ça nous aide pour la compréhension. On a vu qu'en 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul fait face à un événement, des événements, des expériences spirituelles qui prennent place dans l'Église, des manifestations surnaturelles. Il faut qu'il les gère. Il donne un enseignement là-dessus. Son souci principal, c'est qu'il y ait vraiment un respect mutuel, un ordre qui soit maintenu dans l'Église, tout en permettant à la liberté du Saint-Esprit d'agir comme ça se passait à cette époque-là. On arrive à 1 Corinthiens 13, qui est le chapitre charnière et le chapitre par excellence de l'amour par excellence. Et on arrive à 1 Corinthiens 14, où on a lu ce texte-là, à savoir que les femmes se taisent dans l'Assemblée. Donc je ne vais pas revenir en détail, mais juste pour qu'on puisse saisir, se remettre un petit peu dans le bain, comme on dit. Et en fin de compte, on a vu que la préoccupation de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, principalement, c'était justement l'inconvenance. L'inconvenance n'a pas sa place. Alors, il voit qu'il y a des choses qui prennent place spirituellement, il y a des manifestations qui prennent place, c'est nouveau, il y a une ébullition, il y a quelque chose qui prend place. Il rappelle l'importance de l'amour, et là, il arrive en disant, au verset 35, 14, verset 35, dit, si elles, en parlant des femmes, veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler dans l'Église. Et nous avons vu, je ne rentrerai pas en détail, mais rapidement, à cette époque-là, il n'était pas rare, justement, il semblerait que lorsqu'un orateur prenait la parole, comme par exemple moi ce matin, eh bien, dans la culture de l'époque, quelqu'un pouvait se lever puis commencer à poser des questions, interrompre le discours qui était fait, et c'était chose courante, il semblerait. Alors, quand une femme se levait, ou quand quelqu'un se levait, mais qui n'avait aucune instruction sur le sujet, et fait perdre du temps à tout le monde dans la salle, c'était pas le bienvenu, et à plus forte raison quand c'était une femme qui n'avait pas, les femmes n'avaient pas l'instruction que les hommes avaient, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, il y a vraiment, ça dérange, et c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul va dire, ce n'est pas inconvenant. On a vu autrement dit que le manque d'instruction est la source principale de l'inconvenance. C'était pas tellement rattaché au fait qu'elle soit une femme ou non, mais principalement sur le fait qu'elle n'avait pas l'instruction, la connaissance pour pouvoir se permettre d'interrompre les discours qui étaient partagés. Donc, on arrive maintenant dans Éphésiens chapitre 5. Ça fait 5 minutes que je parle. OK, on est dans les temps. Éphésiens chapitre 5. OK. Il y a en exégèse, ou si vous préférez, en étude de texte, il y a un terme qu'on appelle la péricope. La péricope, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qu'on appelle un découpage. C'est ce qui indique la portion d'un texte formant une même unité, une même pensée, une pensée cohérente. Et le texte ici qui nous intéresse, Éphésiens chapitre 5, on va regarder la prochaine diapo. OK, voilà. Donc, le texte ici, Éphésiens, s'inscrit dans une péricope bien précise qui va, donc c'est une découpe d'une pensée unie qui part de Éphésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'à Éphésiens chapitre 6, verset 9. C'est une péricope qu'en général, on appelle cette portion-là code domestique ou code familiaux. Et on fait ressortir, on va pas passer à travers chaque verset, mais je l'ai mis ici pour que vous puissiez vraiment avoir un premier aperçu rapide de ce bloc-là. Et en fait, on voit rapidement de Éphésiens 5 à Éphésiens 6, ces portions-là, on voit qu'il est question il y a rapport entre les épouses par rapport à leur mari, inversement les maris par rapport aux épouses, les enfants par rapport aux parents, les pères par rapport aux enfants, et les esclaves par rapport aux maîtres, et enfin, on voit encore une fois les maîtres par rapport aux esclaves. Et c'est pour ça qu'on appelle cette péricope-là, cette découpe-là, code domestique ou code familial. Et c'est important de saisir ça dans le contexte de notre verset aujourd'hui, Éphésiens 5, qui fait frissonner dans le sens négatif du terme la majorité des femmes lorsqu'il est dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». C'est important de comprendre ça parce qu'en fait, ici, dans ce contexte-là, en fait, ce qu'on comprend, c'est que Paul est en train de faire un comparatif du comportement de Christ par rapport à son Église. Il est en train de comparer Christ par rapport à son Église dans le but, en vue d'appeler autant les épouses que les maris, et même après ça, les enfants, les parents, les maîtres, etc., donc personne n'y échappe. Mais là, on est dans le sujet hommes et femmes, dans le but d'appeler autant les épouses et les maris à adopter et à imiter la même attitude de cœur, le même état d'esprit que Jésus a envers son Église. Nous sommes appelés à imiter cette attitude-là les uns envers les autres, et ça commence par notre conjoint. Donc, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là que l'apôtre Paul va écrire ce texte-là. On arrive à Éphésiens, chapitre 5, versets 21 et 22, où il est dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Jusque-là, ça va. Mais après ça, 22, ça commence, boum, femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Certaines versions vont dire, femme, soyez soumise. Vous avez compris, le sens est le même. OK. Vous allez remarquer, voilà, je ne sais pas si vous le voyez au verset. Donc, verset 22, femme, soumettez-vous. Le soumettez-vous est entre crochets. Donc, lorsque vous voyez dans vos Bibles un texte, un mot, une phrase qui est entre crochets, c'est simplement une indication de la part des traducteurs pour dire que ce mot-là a été rajouté dans certaines traductions par la suite et qu'il ne figure pas dans toutes les traductions. Donc, c'est pas forcément systématique que c'était à l'origine de la traduction, mais ils le mettent quand même parce que ça aide à la compréhension. Donc, certains vont dire, en fait, le soumettez-vous n'apparaît pas originellement, n'apparaît pas dans le verset 22. La même référence par la version du semeur, ici, verset 21-22, on lit ceci. Et eux, ils l'ont traduit comme ça, justement. « Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettez les uns aux autres. Vous, femmes, en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. » Donc, il y a quand même cette notion de « soumettez-vous ». On n'est pas en train de dire que « soumettez-vous » n'existe pas. Je veux juste attirer notre attention sur notre compréhension de ce texte-là. Pourquoi? Parce que, en fait, la nuance, elle est ici. C'est que lorsqu'on comprend que le « soumettez-vous les uns aux autres » est le moment clé où on est appelé à se soumettre, en fait, c'est que c'est le Seigneur qui devient la référence de la soumission des femmes à leur mari. C'est le Seigneur qui devient la référence de l'attention des maris à l'égard de leurs femmes. Donc, cette soumission, elle est vraiment reliée en fonction de ce que Jésus, encore une fois, a fait pour nous. Et non simplement, il faut que je me soumette à un homme parce que la Bible dit « soumets-toi à un homme ». Ma soumission, on va dire que je suis une femme, une épouse, ma soumission par rapport à mon mari ne vient pas simplement du fait parce qu'elle est un homme, elle est tirée principalement parce que je veux imiter Jésus qui, lui, a donné l'exemple, lui aussi, d'une soumission envers son Père lorsqu'il était physiquement sur terre. Donc maintenant, on va aller un petit peu en détail sur ces termes-là. Femme, soumettez-vous. On revient au verset 22. Le verbe se soumettre, ici, dans ce texte-là, c'est upatasao. Alors, excusez-moi pour la prononciation. Upatasao. Upatasao, c'est ça. Upotasao. Bon. C'est pour ça que je l'ai mis par écrit, comme ça, chacun peut le lire à sa façon. Usopato, ou bon, d'accord, ok. Ok, se soumettre, ici, c'est upotasao. Ne pas confondre avec un autre terme qui dit upakuo, qui veut dire obéir. C'est deux termes différents, qui fait allusion à la soumission. C'est important parce que vous avez vu qu'on a parlé de ces rapports mari, homme, femme, maître, esclave. En fait, ici, soumettez-vous, ce n'est pas un upakuo, comme ça pourrait être pour des esclaves. Esclave, soumettez-vous, obéis à ton maître. Ça, c'est upakuo pour les esclaves de cette époque-là. Le soumettez-vous ici, ce n'est pas dans le même état d'esprit, ce n'est pas upakao, c'est upatasao. Et c'est une autre dynamique. On va le voir, il va apparaître sur l'écran. Upotasao est utilisé en référence à deux personnes absolument égales devant Dieu. La femme choisit de se placer en tant que personne égale sous un autre égal, le mari, afin que l'ordre et la responsabilité puisse régner dans la famille. On l'a dit précédemment, je crois profondément au principe du leadership. Quand je parle du principe de leadership, c'est que dans toute corporation, que ce soit une équipe sportive, un corps d'armée, une église, aussitôt qu'il y a quelques personnes qui se réunissent, que ce soit de façon naturelle ou parce que ça a été attribué, quelqu'un va se lever ou est appelé à se lever pour donner une impulsion, pour donner une direction, pour prendre les devants, pour prendre les coups. C'est un principe. Donc, on ne peut pas passer ici, et dans la cellule familiale, c'est le même principe. On est égaux, mais à un moment donné, on ne peut pas être deux à passer en même temps. entend la porte parce que ça passera pas. Il faut qu'il y en ait un qui prenne les devants, puis qui prenne les coups et qui couvre aussi les arrières. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous sommes, et ce terme grec-là, soumettez-vous, est vraiment dans cette dynamique-là où il y a vraiment d'une personne égale à une autre, et c'est un choix volontaire. On continue un petit peu plus loin. Le verset 21, cette fois-ci. On remonte un peu plus loin au verset précédent. Quand il dit « soumettez-vous les uns aux autres », se soumettre les uns aux autres, ici le terme c'est « hypotasso » avec le « y ». Prochaine diapo, on va... Voilà, c'est ça, vous l'avez ici. C'est « hypotasso ». Et ici, le terme « tasso », on va s'arrêter simplement, donc c'est un terme militaire en passant, on va y revenir, « hypotasso ». Ici, le terme « tasso », c'est mettre quelqu'un ou quelque chose à une place déterminée. C'est hypotasso. Juste le tasso, c'est mettre quelqu'un ou quelque chose à une place déterminée. Voulant dire par là que chaque chose, chaque personne a sa place. On l'a dit, nous sommes égaux avec des rôles différents. On peut pas mettre la batterie d'une voiture à la place des phares et les phares à la place de la batterie en espérant que ça va éclairer. Ça marche pas. Ils sont pas du tout dans le tasso. Faut les tasser de là pour mettre dans le bon tasso. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc c'est le même principe. On va un peu plus loin, là on s'arrêtait sur tasso, le hypo en grec. Hypo en grec se traduit de trois façons. Alors, des fois je trouvais que la langue française est compliquée, mais le grec, ils assurent aussi. De trois façons, donc hypo en grec se traduit de trois façons, les façons suivantes, vous les avez ici. Il y a la voix active, la voix passive et la voix moyenne. Hypo, toujours l'hypo là c'est l'aspect de se soumettre. Dans la voix active, on parle de soumettre à, dessous quelque chose, quelqu'un, subordonner, placer en dessous. Dans la voix passive, c'est devenir le sujet de... Donc, encore une fois, cette dimension de subordination. Et dans la voie moyenne, c'est se soumettre, mais volontairement. Il y a une petite nuance, là. Se soumettre volontairement. Alors, on n'ira pas regarder en détail, mais tous les versets, je les ai mis quand même pour vous à l'écran dans la prochaine diapo. Il se trouve que toutes les fois où il est question, que ce soit dans 1 Corinthiens 14, 34, Éphésiens 5, 21, 24, Colossiens 3, 18, Tite 2, 5, 1 Pierre 3, 1 et 5, je prends la peine de les mentionner en détail pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas le visuel, dans toutes ces références-là, à chaque fois qu'il est question de soumission, c'est toujours conjugué à la voix moyenne. Il y a toujours cette dimension de se soumettre volontairement. Donc Paul est en train de demander aux épouses de rester à une place bien déterminée afin de ne pas prendre le pas sur leur mari et s'en remettre non par contrainte, mais volontairement à leur autorité. Et il ne s'agit pas ici d'une autorité exercée par le mari, mais d'une soumission choisie librement pour se mettre sous la bonne influence et la bonne protection de son mari. Donc le rôle du mari n'est pas tant d'exercer dans le sens négatif du terme, mais d'assumer son autorité en prenant les devants, en la protégeant, en pourvoyant à ses besoins généraux. Autrement dit, il est appelé, nous sommes les hommes mariés, nous sommes appelés à assumer la protection plutôt que d'exercer une pression. Encore une fois, dans ces nuances que nous avons vues depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, on a vu ces notions-là où l'autorité qu'on est appelé à exercer, c'est une autorité qui est là dans le but de protéger, d'encadrer. Et d'encadrer dans le sens de protéger. Soumettez-vous les uns aux autres, je l'ai dit, c'est un terme, l'hypotasso est un terme militaire, suggère un terme militaire. L'idée, c'est d'être lié réciproquement, c'est une collaboration et une coordination mutuelle, c'est un terme qui est très fort. Alors mesdames, j'espère que lorsque vous allez voir ce terme-là, soyez soumises à vos maris, que ce ne soit pas quelque chose qui vous fasse hérisser les poils du dos, de la nuque ou que sais-je encore, mais que vraiment vous puissiez réaliser, et pour nous aussi en tant qu'hommes, réaliser que ce terme militaire-là, c'est vraiment dans l'idée d'être liés ensemble, réciproquement, pour faire un bloc contre l'adversité ou l'adversaire ou les situations qui s'opposent à nous. Il y a cette dimension de collaboration, de coordination, l'importance de connaître sa place. J'ai besoin de connaître ma place en tant qu'homme, j'ai besoin de connaître ma place, peu importe les différentes sphères dans lesquelles on se trouve. Et il y a cette acceptation volontaire de se mettre, d'accepter son rôle, en fait, de se mettre en équipe et en soumission avec la personne avec qui nous sommes mariés. Ce principe s'applique dans d'autres dans d'autres sphères. J'ai été pasteur pendant 6 ans, pasteur adjoint dans une église au Québec. J'étais le pasteur adjoint et j'avais littéralement le pouvoir qu'il avait. C'est-à-dire que quand je parlais, c'est comme si c'était le pasteur principal qui parlait. Donc, il y avait vraiment une équipe qui était là, mais j'étais tout le temps volontairement, c'était mon choix volontaire de me mettre sous l'autorité de mon pasteur, même si on faisait une équipe, on avait des rôles différents, des interventions différentes, et ça a fait en sorte qu'on a pu vraiment faire un travail extraordinaire ensemble, et l'Église en a bénéficié. Donc ce principe-là de soumission, d'être liés les uns aux autres, s'applique à tous les domaines de notre vie. Ça va jusqu'ici? Remarquez quelque chose, on parle souvent Éphésiens 5, justement, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Remarquez ceci, il y a, prochaine diapo, voici, sur 12 versets au total, hein, parce qu'après ça, il y a tout le reste, on ne regardera pas ça en détail, mais il y a aussi « Marie, aimez vos épouses et aimez-les comme, traitez-les comme votre propre corps, personne n'haït son corps, donc tu veux reprendre, il y a vraiment cette dimension. » Sur les 12 versets, il y en a seulement 3 qui concernent les épouses. Et on met tellement d'emphase sur ces 3 versets qu'évidemment, les femmes sont « Ouais, mais là, c'est bien beau, soumettez-vous. » Et on oublie, il y a 9 autres versets directement. Je ne pars pas dans un autre chapitre, ils sont collés. 9 autres versets, ça nous concerne, les maris. 9 autres versets. Et je peux vous dire, si vous les connaissez, vous savez très bien déjà, que quand vous vous arrêtez en détail sur ces 9 autres versets, tu as quasiment envie de passer en silence les 3 précédents. Là, tu as les poils qui se dressent et qui s'hérissent. Parce que ce qui est demandé dans les 9 versets concernant Marie, ô mes amis, en gros, là, en résumé, c'est aimer vos épouses comme Christ a aimé l'Église. Il y a 9 versets qui détaillent ça. OK. Juste ça, c'est comme, d'accord. Est-ce qu'on peut revoir le contrat? Non. C'est quelque chose. Donc, en fait, pourquoi est-ce que je mentionne ceci? Dans la Genèse, nous avons vu, parce que je parlais de l'autorité masculine. Dans la Genèse, pourquoi ce serait plus l'homme ou la femme? Dieu l'a décidé comme ça. Dans la Genèse, on a vu que devant la tentation, face à la chute plutôt, il y a les deux seules personnes qui étaient confrontées de front par Dieu, c'est le serpent. À cause que tu as fait ça, tu auras ça. La femme, il n'y a pas de tu. Il n'y a pas parce que tu as tenté ton mari, c'est voilà, tu vas souffrir pendant tes grossesses. Et je sais. Non, je ne sais pas, c'est pas vrai, je ne sais pas à quel point c'est douloureux, mais j'essaye d'imaginer. Mais il n'y a pas de confrontation frontale. Et à l'homme, puisque tu ne m'as pas écouté, donc on voit qu'il y a une responsabilité. Dieu a fait peser sur l'homme une responsabilité plus grande pour un même événement. Les deux étaient présents, les deux avaient la connaissance, les deux ont chuté, mais c'est l'homme qui reçoit une confrontation frontale. Là, on revient dans le même principe. Éphésiens 3, où il y a cette comparaison de Christ et l'Église et la relation de couple, il y a 3 versets qui parlent sur l'épouse et les 9 autres. Pourquoi? Parce que c'est ça, mon ami. C'est à ça que je t'appelle. À prendre ta place, à prendre ton rôle de leader. Pas leader écrasant, leader serviteur. Donc ça, c'était pour la petite mention. Le petit détail qu'on oublie des fois. Quelqu'un a écrit... Il faut que je prenne une goutte d'eau parce que celle-ci, elle est vraiment bonne. Quelqu'un a écrit, donc autrement dit, si je résume ici, ce qu'on voit, c'est que je pense que ça apparaît dans l'autre diapo, c'est pas tellement la, en fait, si on voit la prochaine diapo, vous allez le voir de façon visuelle. Donc, Éphésiens 5, 22 ne parle pas tellement d'une domination de l'homme sur la femme, mais d'un don de lui-même envers son épouse, c'est les 9 versets auxquels je faisais allusion. Donc, on n'est pas dans une attitude de domination, de supériorité et d'abus, mais d'un don de soi comme Christ s'est donné. Quelqu'un a écrit ceci, la soumission de l'épouse à l'égard de son mari est analogue à celle de l'Église à l'égard de Christ. C'est-à-dire qu'elle est de l'ordre de l'amour rendu parce qu'il est d'abord reçu. Oh! Ça, je trouve ça fort. Et c'est vrai. Je me rends au Seigneur parce que j'ai tellement reçu de lui. Je n'ai pas de difficulté à m'abandonner dans les bras du Seigneur lorsque je regarde tout ce qu'il a souffert à la croix pour moi, comment est-ce qu'il s'est abandonné. Comment hésiter un seul instant, m'abandonner entre les mains d'un Dieu qui a sacrifié sa vie pour moi et en prend là ma vie. Non seulement ne m'appartient plus parce que tu l'as racheté, mais tu as tellement fait. Et en tant que mari, autrement dit, on a cet appel à se donner à nos épouses et je pense que plus un mari sera présent, fidèle, aimant, bienveillant. Et plus ça sera tellement facile pour l'épouse, ça sera même plus une question de soumission, c'est même plus une question, ça va de soi, parce qu'elle reçoit tellement que vont le faire mal, elle dit, voici, je suis avec toi. Pas je suis sous toi, je suis avec toi. Comment on fonctionne? Donc, ce qu'on comprend, c'est que la relation de l'épouse est conditionnée par l'attitude du mari à son égard. Des fois, comme pasteur, j'ai eu l'occasion de rencontrer nombreux couples. Je mentionne comme ça à de large, donc je ne fais pas allusion ici à l'église du CEP, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer nombreux couples où les maris arrivaient, se plaignaient, ouais, mais ma femme n'est pas soumise, et puis elle ne m'écoute pas, puis ceci, puis quand on commence à discuter, tu t'aperçois qu'il n'y a aucun respect pour son épouse, qu'il la traite comme de rien, qui n'est pas présent, qui est plongé dans ses jeux vidéo, qui est inexistant pour l'éducation de ses enfants, qui préfère passer au bar plutôt que d'aider sa femme dans les besoins qu'il a, mais voudrait que sa femme soit soumise à lui. Commence par donner, puis donner l'exemple, puis peut-être que ta femme, à ce moment-là, va vouloir se soumettre à toi volontairement dans le hypatasao, ou je ne sais pas quel terme grec c'est, mais vous avez compris le terme, l'idée. Ça va? Et donc, le mari est invité à reconnaître sa femme comme un autre lui-même. C'est ce que Éphésiens nous enseigne parmi ses 9 versets, à reconnaître son épouse comme c'est un autre moi-même qui cherche à s'abuser soi-même. Tu prends soin de toi. Donc, je vais sauter. Il y a Éphésiens 5, 31. Je vais sauter rapidement. Vous allez l'avoir dans les notes. Je veux bondir cette fois-ci dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Alors là, c'est vraiment intéressant parce que 1 Corinthiens 14 nous disait que les femmes se taisent en public. Et Timothée 2 disent que les femmes ne peuvent enseigner. Donc, il y a la dimension de parole, mais de parole dans le but d'enseigner. Alors, il faut savoir ceci. 1, 2, la première et la deuxième lettre de Timothée, plus Tite, 3 lettres. Ces 3 lettres-là sont nommées les épîtres pastorales ou des lettres pastorales. La grosse différence entre ces 3 lettres-là et toutes les autres lettres, c'est que les épîtres pastorales, elles s'adressent non pas à des églises, mais à des collègues. Déjà là, on est dans un autre contexte. Ces 3 lettres-là, on parle de Timothée, c'est pas des lettres qui s'adressent à l'église en général, même si on en bénéficie et elles nous instruisent, c'est sûr, mais concrètement, elles s'adressent à des collègues. Paul avait déjà, là on va arriver dans 1 Timothée, c'est important de comprendre le contexte de 1 Timothée, et Paul dans Actes chapitre 20, verset 29, je lis pour vous, il est pas à l'écran, il va dire, je sais qu'après mon départ, il parle de l'église d'Éphèse, je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous, ils n'épargneront pas le troupeau. Il est en train de dire, je sais qu'il va y avoir des loups. Dans la Bible, ça veut dire des faux enseignants, des faux docteurs, des faux prophètes, des faux. Et il dit, je sais que ça va arriver. Et il donne des instructions précises à Timothée, à son fils spirituel, à son disciple dans la foi. Timothée, c'est son collègue aussi, pasteur de l'église là-bas, apôtre et pasteur. Et il va lui donner des instructions bien, bien précises. En fait, on l'a ici le texte. On va le lire rapidement. Que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et Adam n'a pas été trompé alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. OK, Paul ici est en train d'équiper le jeune pasteur de l'église d'Éphèse à lutter contre les faux enseignants. L'enseignement dans 1 et 2 Timothée, c'est le sujet qui prédomine les lettres. C'est incroyable. Les critères de comment est-ce que tu dois te comporter, comment est-ce que tu dois enseigner, qu'est-ce que tu dois dire, pas dire, quoi écouter, pas écouter. Tout est principalement axé sur l'enseignement. Le souci de Paul dans Timothée, principalement, c'est l'enseignement. Il y a des gens qui arrivent et qui disent n'importe quoi et est en train d'équiper son jeune disciple comme un bon mentor pour faire face à cela. Et dans ce contexte-là, on arrive, je ne lui permets pas d'enseigner, de dominer sur l'homme. Et on prend ce texte-là et dans certaines églises, on va dire c'est fini, la femme ne peut pas enseigner. Je rappelle, c'est le seul verset de la Bible qui dit ça. Le seul. 1 Corinthiens 14 ne parle pas, on l'a vu, d'enseignement, parle de prendre la parole en public et ça c'est réglé. Réglé entre guillemets, après chacun adhère ou n'adhère pas, mais on en a parlé. C'est le seul verset. C'est le seul verset où il n'est pas question d'épouse, on parle plutôt de veuve, de femmes qui sont seules. Là, pour comprendre, en fait, c'est que c'est la stratégie des loups, c'est important de comprendre quelle est la stratégie de ces loups-là, de ces faux docteurs. C'est de profiter de la vulnérabilité des femmes seules. Il y avait une stratégie, ces faux enseignants avaient une stratégie bien précise pour infiltrer l'Église, de profiter de la vulnérabilité de ces femmes seules. On va voir, on reste dans Timothée, chapitre 5. De plus, étant désœuvrées, on parle des veuves, elles prennent l'habitude d'aller de maison en maison, et non contentes d'être désœuvrées, elles se montrent encore bavardes et indiscrètes en parlant de ce qu'il ne faut pas. Je veux donc que les jeunes veuves se marient. T'es en train de dire, mettez-vous sous une autorité protectrice, restez pas seuls. Mariez-vous, restez pas seuls, vous êtes vulnérables. Qu'elles aient des enfants, oups, qu'elles dirigent leur maison, quand même, faut quand même le préciser, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire, et c'est là que c'est important, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de dire du mal de nous. En effet, certaines se sont déjà détournées pour suivre Satan. Des termes qui sont violents. Qu'elle ne donne à l'adversaire aucune occasion de dire du mal de nous. Il y a des faux enseignants qui sont là et puis qui sont en train de salir la réputation et le nom de Paul et de l'Évangile surtout. Là, on voit qu'il y a quelque chose. 2 Timothée 3, c'est quand même assez clair. Verset 6. Certains d'entre eux, hein, de ces loups-là, s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules, chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce qu'elles apprennent n'importe quoi. Là, c'est fort. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons, prennent dans leur filet des femmes crédules, chargées de péchés, entraînées par tout ça. Moi, là, il n'y a pas un homme qui va rentrer dans ma maison, s'infiltrer, pour séduire, peut-être de d'autres façons. Il y a des tentatives dans la vraie vie, on le sait, ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a un homme à la maison qui est présent, tu vas pas permettre à n'importe quel gars arriver puis commencer à dire des âneries, des enseignements faux à ta femme. T'es là. Ça va même pas lui traverser la tête. Et dans le cas où ça traverse la tête dans une conversation qui pourrait sembler bénigne, le mari, il est là, dit, écoute, mon ami, là, t'es bien gentil. La porte, elle est là. Fais attention de pas tomber parce qu'il y a 4 marches. Je suis gentil de te l'aviser. Mon point, c'est simple. C'est que ces femmes-là sont seules. Elles sont livrées à elles-mêmes. Et ces loups-là, ces faux enseignants, ont compris. En fait, elles ont un avantage. Ils ont un avantage. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'elles sont veuves, elles sont seules, donc sans autorité protectrice, de un. Elles sont sans instruction. On est dans un contexte où la femme n'est pas instruite, donc peuvent leur faire avaler n'importe quoi. Et en plus, elles ont tout l'espace nécessaire pour faire une belle cellule maison. Il y a tous les ingrédients nécessaires pour faire une belle hérésie qui se lève contre l'Évangile. Alors, en fait, et moi, c'est comme ça que je le comprends. Encore, c'est ma perception. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec cette perception-là, mais c'est la mienne parce que je la trouve cohérente de la Genèse à l'Apocalypse et dans la pensée de Paul. Je trouve qu'elle se tient très bien. Elle se défend très bien. Le problème de fond, ici, quand ils parlent, femmes, n'enseignez pas, le problème de fond est un problème de connaissance plutôt que de genre. On est dans un contexte où il y a des faux enseignants et c'est pour ça qu'il dit, là, je m'adresse à mon disciple, à mon jeune, il faut que je le forme, voici ce que tu dois faire, parce que là, ça va mal aller. Et en fait, Paul encore va dire, encore une fois, on va voir Paul des fois comme un misogyne. Paul, il n'est pas en train de fermer la porte, il dit, si vous voulez vous instruire, instruisez-vous paisiblement. Et là, on ne réalise pas, nous, mais à cette époque-là, c'est déjà révolutionnaire. Vous pouvez le faire, mais faites-le avec vos maris, tranquille, à la maison, paisiblement. Vous allez recevoir l'enseignement que vous avez besoin. C'est ce qu'il dit au verset 11. Que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Et le terme s'instruit, c'est matano, il n'est pas à l'écran, mais c'est le sens d'apprendre à faire quelque chose. Et en fait, il est en train de dire, je ne veux pas que vous appreniez pour apprendre, je veux que vous appreniez dans le but qu'à votre tour, vous enseignez. Parce qu'habituellement, quand tu reçoit un enseignement, c'est pour le transmettre à quelqu'un. Fait que Paul est en train d'ouvrir d'ouvrir à chaque enseignement, il y en a une comme ça qui sort. Il est en train d'ouvrir la porte aux femmes pour dire, voilà, instruisez-vous, puis mettez-le à votre tour en pratique. Mais je ne peux pas aller plus loin à cause du contexte culturel, mais si vous désirez recevoir cet enseignement, vous avez cette possibilité-là. Donc, ça s'affiche à l'écran, ce n'est pas contre la femme qui enseigne que Paul se lève, mais contre l'enseignement incohérent qu'il se dresse. C'est contre ça qu'il se dresse principalement. Je continue, on achève tranquillement. Verset 14 du chapitre 2 à Timothée. Et Adam n'a pas été trompé, alors que la femme a été trompée, femme trompée, s'est rendue coupable d'une transgression. On va terminer cette portion de Timothée par rapport à ce texte-là où encore certains voudraient prendre supériorité en disant, ben voilà, nous, en fait, on n'a pas été trompés parce qu'on est de la descendance d'Adam. C'est apatao, apato. Moi, je ne sais pas pourquoi je mets des ao partout. Je trouve que ça fait exotique. Ça fait exotique, je ne sais pas, bref. J'aurais écrit le grec autrement, moi. Moi, là, j'aurais fait ça autrement. Et Adam n'a pas été trompé, il n'a pas été apato, alors que la femme alors que la femme trompée est exapatao. Pato. Ah, j'y tiens. Hein. Voilà. OK. Apato. Le terme prochaine diapo veut dire tromper, séduire. Exapato. Là, tu vois, j'ai mis en patao. Je pense, honnêtement, je pense qu'il existe parce que des fois, tu as des nuances en grec et les deux doivent se dire. On va dire, hein. On a le droit un peu de... Bon, et quand même, je transpire déjà assez comme ça, s'il vous plaît. Permettez-moi d'inventer la langue, de la tordre un peu. OK, donc exapatao, je vais rester là-dessus parce que voilà, mon cerveau est cadré là-dessus. Il y a aussi la notion de tromper, séduire, mais avec la dimension supplémentaire d'abuser. Et le premier au-dessus, le apatao, quand on parle dans Éphésiens 5, que personne ne vous trompe par ses paroles, par des paroles sans fondement, c'est la première définition. Jacques aussi, quand il va dire, si quelqu'un parmi vous se pense être religieux et qu'il ne tient pas sa langue en bride, il trompe son propre cœur. Là encore, c'est cette dimension de apatao. Maintenant, là, ce qui concerne le exapatao, ici, là, c'est vraiment l'idée de le ex. Ici, c'est l'idée d'un éloignement, de conduire loin, d'une séduction complète et totale. Et on retrouve ce terme-là dans Romains 7 quand il dit, en effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé, il m'a séduit complètement, il m'a abusé, il m'a éloigné de Christ et par lui m'a donné la mort. L'autre référence, je l'ai mise pour vous à l'écran, 2 Corinthiens 11, 3, encore une fois, c'est exapatao. Cependant, de même que le serpent a trompé, a exapatao Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. Donc là, c'est vraiment encore une fois cette notion de abuser, éloigner. J'ai fait exprès de la mettre, celle-ci. Parce qu'il parle du serpent, il parle d'Adam, comme dans Timothée. Il y a cette notion qui est là. Alors, avec ce contexte-là, où il y a des faux enseignants, où il y a, il y a un contexte qui est bien précis, je vais simplement résumer ce texte de 1 Timothée. Le contexte spirituel des lettres à Timothée, on l'a mentionné jusqu'ici. Le motif d'interdiction, donc ces femmes sont vulnérables. Le sens des termes utilisés et le rappel du récit génésiaque, ou de la Genèse, si vous préférez, montrent clairement que ce texte-là s'adresse et est donné dans une direction précise. Il s'agissait d'une direction précise, destinée à un public précis, avec une problématique précise, dans une culture précise. C'est un seul verset. Et c'est pour moi, c'est comme ça que je le vois, c'est dans un cadre bien, bien précis que ce texte-là a été communiqué à Paul en disant à la femme de ne pas enseigner. Encore une fois, ce n'est pas contre la femme que Paul se lève, mais contre l'enseignement incohérent qu'il se dresse. Et ça, c'est le contexte dans lequel je comprends Timothée. Et je vais terminer cette portion-là avec une citation d'un homme. Un homme qui, c'est un théologien, professeur, un homme qui a étudié la pensée de Paul depuis pendant 40 ans. Donc le gars, il sait, je pense. Moi, j'ai passé quelques semaines, voire un mois ou deux sur le sujet, puis ça m'a donné un bon aperçu du sujet et de la pensée de Paul. Je dis bien un bon aperçu. J'ai pas la maîtrise absolue. Je me suis dit, c'est pas mal d'avoir une citation d'un gars qui connaît la pensée de l'apôtre Paul pendant 40 ans, un théologien, pasteur, professeur. Il dit ceci, 1 Timothée 2, versets 8 à 15, ne dit rien sur les relations homme-femme, mais insiste sur une situation qui s'est développée à Éphèse, contre laquelle il veut mettre en garde la communauté. Les femmes doivent être attentives afin de ne pas se laisser distraire, puis tenter par les fausses doctrines et par les faux prophètes, comme Ève s'est laissée tenter par le serpent en Éden. Et là, on a toute la comparaison qu'on a vu précédemment écrit par Timothée dans le texte qui renvoie au texte de la Genèse. Donc, on est dans ce texte-là. J'ai fini dans 10 minutes. La femme dans l'Église d'aujourd'hui. Point d'interrogation. Alors, je ne vais pas être très long, même si, mais c'est celui-là, on aurait voulu passer plus de temps là-dessus. Mais en fait, le plus de temps là-dessus, c'est la vie de tous les jours. Ça va? Je ne vous ai pas trop assommé? Bon, je me réjouis d'un bon petit message tranquille sur David et Goliath 2, le retour. OK. Encore une fois, avant d'arriver dans cette portion, si vous nous rejoignez, soit par les réseaux ou soit ce matin, on l'a dit, hein, que ce sujet, alors que j'arrive à la fin, que ce sujet ne soit pas un sujet de division et de discorde. On dit défaite à l'adversaire, on l'a chanté tantôt, on a des frères au Burkina, des frères partout ici, on est appelé à marcher en unité d'esprit. Et c'est complètement utopique de penser que dans une église où il y a 100, 500, 1000, 1500 personnes, qu'on pense que tout le monde pense pareil sur les mêmes sujets bibliques. Ça, c'est le paradis. Et là, on n'est pas encore dans le paradis. Donc, c'est important de se le rappeler. Je sais que c'est un sujet qui est sensible. On peut avoir des perceptions différentes. Vous pouvez ne pas être d'accord avec certaines choses ou la totalité de ce que j'ai enseigné. C'est correct, t'as le droit. Je reviens à mon premier message. Ultimement, on peut se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Mais ça ne m'empêche pas qu'on se respecte, qu'on s'aime, qu'on travaille ensemble et qu'on fait avancer la cause de l'Évangile avec les dons et les talents de chacun. Donc, c'est juste reparamétrer un petit peu tout ça. Il fallait choisir une ligne de pensée. Moi, c'est celle-ci que j'ai choisie. Je l'ai défendue comme j'ai défendu, comme je l'ai fait, sur ce critère de cohérence, parce qu'il passe à travers le filtre de l'ancien, du nouveau, de la pensée de Paul, etc. Maintenant, c'est libre à chacun. Maintenant, c'est libre à chacun d'être à l'aise avec ça ou non. Alors, la femme dans l'Église aujourd'hui, je vais dire ceci, ça va s'afficher à l'écran. La femme, et je ne vais pas aller en détail parce que ça serait une autre heure, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais je vais quand même résumer. La femme, les femmes du Nouveau Testament étaient actives, responsables et puissantes dans leur ministère au sein de l'Église de Christ. Vous allez dire, ouais, mais ça c'est le Nouveau Testament, nous on veut savoir aujourd'hui. Ok, si dans le Nouveau Testament, les femmes étaient actives, prenez la parole, pas active, simplement débarrasser les tables. Active, prenez part à des situations, à des décisions, à des prises de collecte, etc. Elles étaient responsables, puissantes dans le ministère au sein de l'Église de Christ. Moi, je crois qu'encore aujourd'hui, nous avons au sein de notre Église et dans bien des églises, en fait, je dirais toutes les églises, des femmes actives, responsables et puissantes dans leur ministère au sein de l'Église. Les femmes, ce n'est pas à l'écran, mais je vous le dis, ont eu un rôle important dans le ministère de Jésus. Elles étaient en compagnie des 12. Littéralement, Luc 8, versets 1 et 3, on parle souvent des 12 disciples, mais encore une fois, on est dans une culture où les femmes ne sont pas mentionnées. On mentionnait seulement les hommes. Pour connaître une population, souvent, il fallait creuser. On parle des 12 disciples, mais vous lirez Luc chapitre 8, versets 1 et 3. Et on voit clairement que les femmes accompagnaient Jésus dans son ministère. Elles n'étaient pas mises de côté. Et là, et bien sûr, il y en a qui vont dire « Ouais, mais accompagnaient pour laver les pieds, pour servir aux tables. » Non, elles ont pris part au ministère de Christ, à part entière. Elles ont joué un rôle majeur. Et encore aujourd'hui, je le dis sans hésitation, encore aujourd'hui, les femmes jouent un rôle majeur dans l'histoire de l'Église. Elles ont joué un rôle majeur dans la proclamation de la résurrection. Alors, je ne sais pas quel est le message le plus puissant que la proclamation de la résurrection. Ça, c'est le top des top messages. La proclamation de la résurrection. Elles ont reçu le déversement de l'Esprit au même titre que les hommes. Dans Actes chapitre 2, verset 8, vous allez voir que le Saint-Esprit s'est déversé sur toute chair, femme y comprise. Donc, elles n'ont pas été mises de côté parce que c'était des femmes. Donc, ça veut dire que quand tu reçois la puissance du Saint-Esprit sur toi, habituellement, ce n'est pas pour rester dans ton salon pour débarrasser ou passer l'aspirateur. Habituellement. Ça peut t'aider à passer l'aspirateur, c'est vrai, quand le Saint-Esprit est en toi, ça, c'est comme un second souffle, tu sais, au niveau des motifs, etc. Mais je pense que s'il y avait une raison, il y avait une raison. Elles ont exercé les dons surnaturels du Saint-Esprit dans Actes 21. Elles ont eu un rôle d'enseignement. Je sais que certains diront non, mais vous allez voir dans Actes 18, verset 26, avec Apollos, c'est un couple, et c'est dit que les deux ont enseigné, ont aidé. Il y a des termes dans le Nouveau Testament où on parle de... C'est pour ça que je ne peux pas rentrer. Ce serait un autre sujet de rentrer dans les diacres et compagnie. Mais il y a des termes clairs qui nous parlent d'une collaboration synergéos, qui parlent d'une collaboration. C'était des collaboratrices. Alors, je sais qu'en France, le terme collabo a une autre connotation. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Elles collaboraient. Elles n'étaient pas là en à côté, en annexe, à quelque part. Ah oui, c'est vrai. Non, elles collaboraient énergiquement avec le reste des apôtres. Et aujourd'hui, donc elles ont un rôle d'enseignement, aujourd'hui, le contexte de notre société, on est d'accord, est très loin des milliers d'années éloignées de cette époque-là. Donc culturellement, temporellement, on est très loin des réalités qui se trouvaient à cette époque-là. Si les femmes étaient actives à cette époque-là, à plus forte raison aujourd'hui. Donc je vais faire rapidement pour comment est-ce que je vois ça, et je vais finir là-dessus. Et je vais ouvrir volontairement la porte sur quelque chose pour quand même que vous puissiez voir un peu qu'est-ce qui se passe dans comment je vois tout ça, la femme aujourd'hui. Pour comprendre la prochaine diapo, diacre, ancien, pasteur. Okay, c'est ce qu'on retrouve dans la Bible essentiellement. En fait, c'est la structure de l'Église. Principalement, ça se résume à ça. Les diacres, les anciens, les pasteurs. Les diacres avaient ce rôle justement de relâcher un peu les apôtres pour qu'ils puissent se consacrer à la proclamation de la parole et qui servaient aux tables, récoltaient des collectes, aidaient aux choses bien pratiques. Les anciens qui avaient un responsable, qui était vraiment une responsabilité spirituelle reconnue pour justement lutter contre ces hérésies-là, comme Paul, Timothée et tant d'autres. Et il y avait le pasteur, et je vais en venir à ça, il y avait le pasteur dans Éphésiens 4 aussi, on parle aussi Éphésiens 4, où il y a des dons qui ont été donnés à l'Église, comme des pasteurs, des prophètes, des docteurs, etc. Et ces hommes-là faisaient partie aussi de ces dons. Paul, Timothée étaient des apôtres, mais aussi des pasteurs, des dons qui ont été des dons ressources humaines qui ont été donnés à l'Église. Dans la Bible, ancien pasteur, je ne rentre pas en détail dans les termes, mais c'est exactement le même terme. Ancien pasteur, c'est le même terme de mémoire, il me semble que c'est presbytéros ou quelque chose dans ce style-là, qui veut dire enseignant. C'est la même fonction, les mêmes exigences, critères spirituels pour pouvoir exercer. C'est la même chose. Maintenant, aujourd'hui, je l'ai dit, le temps a passé. Beaucoup d'églises fonctionnent encore comme ça, avec des diacres, des anciens. Certaines fonctionnent avec diacres, anciens. L'église du CEP, ici, a fonctionné pendant des années sans aucun pasteur, avec uniquement un conseil d'anciens. Et dans ce contexte-là, dans une église avec un conseil d'anciens, les anciens font office d'autorité pastorale. Et dans ce contexte-là, avoir une femme en poste de responsabilité, voilà, c'est pas selon comme on voit l'autorité, que le rôle que Dieu donne à l'homme dans la Bible, c'est pas... On le voit pas dans la Bible de façon claire et nette. Parce qu'il y a plein de choses là-dedans. Est-ce que la femme peut enseigner? Est-ce qu'elle peut être ancien? Est-ce qu'elle peut pas être ancien? Donc maintenant, j'aimerais qu'on puisse... Des fois, on est tellement arrêté sur l'objet qu'on oublie l'objectif de l'objet. L'objet, que ce soit le voile pour nous indiquer la soumission d'une femme à son mari, ou l'objet, le signophile, le signal, le témoin, je sais pas comment, dans quelle langue on l'appelle, le clignotant de la voiture. Le but, c'est pas que je regarde clignoter, il a clignoté 4 fois à la lumière à tel endroit. Non, le but, c'est que ça me dise, il va là. C'est de regarder là ou de regarder là. C'est ça le but de l'objet, d'indiquer. Maintenant, on est tellement parfois concentré sur quelque chose qu'on oublie la raison d'être de cette chose-là. Aujourd'hui, on a toujours donc des églises avec des diacres, des anciens, des pasteurs. Et en termes de définition, si on peut définir ça comme ça, la plupart des églises, les diacres vont occuper ce qu'on appelle, on les appelait un comité d'administration. Et ça rejoint la fonction du Nouveau Testament, où on gère tout ce qui est d'ordre matériel, finance, etc., tout ce qui est logistique, etc. Et il y a les anciens et les pasteurs. Donc, la même fonction, même critère, la petite nuance, c'est qu'avec le temps, avec les besoins, eh bien, la différence d'un pasteur et d'un ancien, c'est que l'ancien, pas toujours, mais plus souvent qu'autrement, je caricature, comprenez-moi, c'est un responsable spirituel qui a une maturité spirituelle, qui n'a pas forcément suivi une école de théologie pour pouvoir faire ça à temps plein, mais essentiellement, c'est qu'il fait ça de son temps libre, en plus de son travail, et puis ça devient lourd sur une équipe, puis c'est comme ça que l'Église du CEP a dit, ben là, ça commence à peser, on a besoin de quelqu'un qui va faire que ça, qui va se concentrer sur le besoin des gens. Le pasteur, même critère, même fonction de prendre soin des gens, aussi un responsable spirituel, mais souvent à cette notion-là d'un ouvrier avec une formation théologique. Moi, j'ai suivi une formation théologique de 3 ans, même si je l'ai fait sur plusieurs années parce que j'étais impliqué à temps plein dans le ministère. Donc, avec une formation théologique et qui a le temps de se consacrer à faire ça. Et parfois, pas toujours, mais parfois, certains pasteurs, moi, j'ai ce privilège-là d'être rémunéré pour pouvoir justement consacrer à temps plein. Donc, c'est la petite nuance. Maintenant, ça, c'est... On va aller à la prochaine diapo. Ça existe encore. Maintenant, il y a beaucoup d'églises qui fonctionnent sur ce modèle-là. On peut d'accord, pas d'accord. Je vais juste partager ce qui existe, parce que des fois, on a juste une façon de voir et de faire les choses. Il y a énormément d'églises qui fonctionnent avec un comité de diacres ou d'administration et avec ce qu'on appelle une équipe pastorale. Il y a plein d'églises qui fonctionnent comme ça. Moi, je viens d'une église, avant de venir ici, de 1300 à 1500 personnes. Je dis pas ça pour dire, waouh, elle vient d'une grosse église. Non, 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 c'est pas ça le point du tout. Absolument pas. Le point, c'est que je viens d'une église avec du monde, on fonctionnait sur ce modèle-là, et encore aujourd'hui, l'église est en train de grandir, ils viennent d'ouvrir un site, puis ils sont rendus à presque 2000. Mon point, c'est le suivant, ça marche. C'est tout simplement ça que je veux souligner. On s'en fout que j'ai été pasteur dans une grosse église ou pas, on peut être pour ou contre les grosses églises, c'est pas ça le point. Ce que j'essaie de dire, c'est que ça marche. Il y a énormément d'églises en ce moment qui sont en croissance et qui fonctionnent sur ce modèle-là. Donc, maintenant... Et je vais arriver à l'autre chose quand je parlais de l'objet, la raison d'être. Maintenant, l'objectif biblique des anciens, des pasteurs, anciens pasteurs, pasteurs pas anciens, tout ça mélangé ensemble. Le but des anciens et des pasteurs qui étaient institués dans le Nouveau Testament. Le but essentiel, c'est de paître le troupeau. Le but essentiel, autrement dit, en termes contemporains, c'est de prendre soin de l'Église. C'est ça le but. Et dans ce prendre soin de l'Église, il y a parfois des moments où il faut se lever et dire, OK, non, là, ce qui a été enseigné par telle personne, par telle invité, c'est pas ça, ou ce que vous entendez à tel endroit sur Internet, c'est de la folie, c'est faux, puis on arrive, puis on le démontre clairement. Donc, c'est ça l'essentiel. Et ça, ce qui m'amène à, en fait, résumer un peu ma perception de l'Église de cette façon-là. Une Église avec... je vais le mettre ici, voilà. Une Église avec un leadership pastoral, je crois, ou une équipe pastorale, a tout à gagner à s'entourer d'une aide secours féminin, on fait écho à tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent, dans la mesure où leur place est justifiée tant par l'exercice concret de leur intervention ou implication dans l'Église que par leur attitude spirituelle générale. Après avoir vu que la femme a été donnée en aide dans le contexte d'une famille et d'une église, le principe s'applique puisqu'on est appelé à refléter Christ dans toutes nos relations. Honnêtement, je crois qu'on a tout à gagner. À intégrer des femmes dans un leadership pastoral, dans une équipe pastorale. Parce que je crois qu'on peut aider l'église tellement plus efficacement. Honnêtement, comme pasteur tout seul, il y a plein d'angles morts que je ne vois pas. Merci Seigneur pour l'équipe, pour les anciens, on est une équipe, on travaille ensemble. Mais merci Seigneur, où j'étais dans les églises, on avait un avis de d'autres angles de vue qui nous a permis de prendre des bonnes décisions à temps, éclairées. Et puis, ce n'est pas des femmes qui étaient pasteurs. Il y en a qui exerçaient certains ministères dans l'église, plus au niveau de l'enseignement ou des choses comme ça. Mais merci Seigneur, parce que ça nous a permis. Et l'avis d'une femme nous aide, parce que des fois, les hommes, on voit les choses d'une façon, mais on ne voit pas l'autre approche. Et combien de fois j'ai été béni dans des situations de résolution de conflits où il fallait approcher une femme et puis qu'il y avait des femmes sur l'équipe pastorale puis dire, écoute, voilà, là on a un problème, c'est vraiment délicat d'aborder cette question d'un homme à une femme. Est-ce que tu peux aller l'approcher puis voir comment est-ce que la personne concernée, la femme concernée qui reçoit, ben, elle est plus attentive parce que c'est une femme qui vient lui parler. Donc, c'est pour dire qu'il y a vraiment une grande, grande richesse. Le leadership pastoral peut être composé de femmes, de personnes qui sont en formation biblique. Ça ne veut pas dire que toutes celles qui sont en formation biblique font partie de cette équipe-là. Mais il peut y avoir des individus d'une expertise X, Y, que ce soit en médias, communication, au niveau de l'enfance ou quoi que ce soit, au niveau d'être un conseiller spirituel comme les anciens actuellement. Donc, c'est riche, ça ouvre la place, ça ouvre un potentiel immense pour pouvoir fonctionner avec vraiment efficacité et c'est juste une bénédiction. Donc, j'ai aucun problème avec la place de la femme dans l'Église et je crois que Dieu a tout prévu pour que justement on fonctionne en accord, chacun dans ses rôles d'autorité, les uns en soumission les uns aux autres. Alors, j'ai terminé avec ça et Romains 16, je vais finir avec ça. Juste un résumé, vous lirez les 16 chapitres de Romains. Il y a, Paul va saluer 27 personnes. Et parmi ces 27 personnes, 11 sont des femmes. Des femmes impliquées, des femmes responsables, des femmes puissantes dans le ministère. Il va les saluer. Et j'aimerais terminer cette série en saluant chaque homme, chaque femme impliqué dans cette église. L'église d'aujourd'hui n'est plus celle qu'elle était aujourd'hui. L'apôtre Paul n'avait pas de souci avec le volume du son dans une salle, du tout. L'apôtre Paul n'avait pas de ministère de relations d'aide dans son église, du tout. Il n'y avait pas Horizon 9 à l'époque de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'avait pas à gérer avec une réalité de société où il fallait gérer avec les médias, l'Internet et tout le visuel. L'apôtre Paul, aujourd'hui dans les églises, c'est ultra présent. C'est pas mal, c'est pas diabolique, c'est pas charnel, c'est juste le contexte de notre vie dans lequel on est. Et moi, je veux terminer comme l'apôtre Paul a salué. Vous prendrez en détail ces personnes-là, mais je salue chaque femme, chaque homme impliqué à l'Église du CEP depuis des années vous faites avancer l'Église, autant hommes, femmes, que même des jeunes, des plus jeunes. On pense à Femmes Club Femmes ou Femmes Club, les monitrices. Il y a des femmes, j'arriverai jamais, c'est Femmes Club. Voilà, Femmes Club. Nous avons des monitrices. Grosse responsabilité que d'enseigner à des enfants, en passant. Énorme. Parce qu'aux enfants, tu fais avaler n'importe quoi. Un adulte peut dire, oh là, ce qu'il dit, c'est n'importe quoi, il peut filtrer. Un enfant, donc on a des monitrices qui enseignent à des enfants qui se donnent à fond, qui sont passionnés dans la louange, une implication dans la louange, dans l'administration. On a Pascal qui est avec Horizon 9, qui fait un travail extraordinaire. Moi, je veux saluer toutes les femmes, les filles de cette église, et je salue aussi tous les hommes de cette église qui font la place à des femmes qui ont un appel, un don particulier. Puis, let's go, mon ami, on fonce. Et dans cet état d'esprit, comme ce terme militaire, on est ensemble. Soumis les uns aux autres, on se tient ensemble. Et puis ce qu'on veut, c'est que l'amour de Jésus soit proclamé, c'est que des gens soient sauvés, que les gens connaissent le pardon de Christ. C'est ça qu'on veut. Chacun à sa place, on avance. Et puis on fait en sorte que la lumière de Jésus brille partout là où on est, dans nos quartiers, dans nos travails. Ça va bien? Donc, salutations de la part de l'apôtre Paul pour vous aujourd'hui. Voilà, moi je ne suis pas l'apôtre Paul. Voilà, merci.
Ok, on va faire ces annonces rapidement. Il y a un tupperware qui a été oublié, certainement de brocoli, c'était un frère d'armes, vous venez le chercher. Merci. Ok, c'était pas des brocolis. Des clés aussi, il y a un trousseau de clés ici, il y en a un autre en bas qui a été oublié, certainement la garderie, c'est posé sur le meuble de la garderie, vous reconnaîtrez, allez voir. En passant, allez vite chercher vos enfants à la fin, à la garderie, ne discutez pas, allez d'abord chercher vos enfants. Une annonce, deux annonces vie d'église. On n'oublie pas la librairie au fond. Il y a un paquet de livres et de cartes à acheter, à donner, à offrir. Si vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez par exemple acheter une carte et l'envoyer à Gabriel qui s'est cassé la jambe cette semaine, en fin de semaine. Gabriel, un des jeunes du groupe de jeunes qui devait être moniteur du club d'été. Il est à Annecy. Donc prenez une carte, ça fera fonctionner la librairie et il sera content parce qu'il recevra une magnifique carte. C'est le WhatsApp un peu ancien. Et sinon il y a tout un tas d'autres bouquins, mais c'est bien. J'en ai fini pour les annonces normales, maintenant les annonces spéciales club. Attention, il y en a un paquet, mais c'est les seules de cette semaine, donc on se concentre. Tout de suite après, on a besoin de 2-3 gars pour démonter complètement la sono. Il n'y a pas besoin d'être bac plus 60 en sono, il faut juste savoir débrancher, enrouler et mettre dans une voiture. Donc 2-3 gars avec Philippe tout de suite après. À 17h, vous avez reçu un mail, la mise en place à la salle, c'est ça, 17h00, donc tout le monde là-bas, et puis on se fait notre petit temps, on lance ce camp. Mercredi qui vient, à 17h30, il y a une réunion de prière qui aura lieu à la salle Gaston Laverrière, donc pas ici, mais à la salle, à 17h30 précisément, soyez à l'heure pour passer un moment avec les membres du club, et puis ben, vous, vu que vous en faites partie, vu que vous priez pour nous. Dimanche prochain, il n'y aura pas de culte ici, le culte sera au club aussi, enfin à la salle Gaston Laverrière, donc pas de culte ici dimanche prochain. On rappelle qu'il faut juste s'inscrire pour l'apéro, il y a une liste qui a été mise par Nancy au fond, il n'y a que 2 personnes inscrites dedans, si on est 200 et qu'il n'y a que 2 personnes qui amènent des tartes, on est mal barré. Donc la liste elle est là-bas au fond, pensez à vous inscrire avant de partir s'il vous plaît. Et il y a des flyers, merci pour les invitations pour dimanche prochain si vous voulez inviter des proches à la salle Gaston Laverrière. Et voilà, il me reste à vous rappeler 2 trucs. 1, la collecte en sortant pour le Burkina. Et 2, pour ceux qui font le club, faites une sieste cet après-midi comme moi, ça va vous faire un grand bien. Ciao.